I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, il est chauve, il a 36 ans, 16 sélections chez les Bleus, il a joué dans des vestiaires prestigieux, il est en train de boucler sa 18e saison chez les pros. Christophe Jallet est avec nous pour ce podcast du Canal Football Club. J'allais vous le dire, brillant jeu de mots,
bravo,
dont je vais sans modestie m'attribuer la paternité. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Vous êtes footballeur professionnel en ce moment au Sporting Club d'Amiens, donc en Ligue 1, après avoir porté successivement les maillots de Niort, de Lorient, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de l'OGC Nice. Et comme la nature vous a doté d'un organe particulièrement habile, la langue, on a eu envie que vous nous fassiez profiter de votre expérience, de vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec les trois points, qui n'ont rien à voir avec le 4-4-2. C'est plutôt des questions qu'on poserait à notre pote footballeur à la machine à café sur le mode raconte-nous un petit peu ce que ça fait d'être Christophe Jallet. Est-ce que c'est agréable d'être Christophe Jallet d'ailleurs?
Bah franchement, je le vis très bien. En tout cas, je suis pas malheureux. Je suis en bonne santé, donc tout va bien.
Bon, ça tombe bien, c'est vous hein, avant tout qui allez parler dans ce podcast. Mais je ne suis pas venu seul. Autour de moi, un monument du football à la télé. Ce n'est pas Léon Zitrone, ce n'est pas Guy Lux, c'est Philippe Doucet, venu sans palette, mais avec sa mémoire et son vécu. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour. Oui, palette sans image, je me demandais ce que ça ferait. Donc on a écourté.
C'est voilà. Bien, c'est bien lui, vous avez reconnu sa voix. En tout cas, c'est le vrai Philippe Doucet. Aline Riera, ancienne internationale de football, 59 sélections en équipe de France, donc beaucoup plus que vous, hein, Christophe.
Largement.
Faites pas le malin.
Ah non, pas du tout.
Tout va bien, Aline?
Tout va bien, merci.
Consultante foot sur Canal, vous nous apporterez votre regard sur ce que va nous raconter, on l'espère en tout cas, Christophe Jallet. Et puis un énergumène que les abonnés de Canal connaissent bien, particulièrement ceux qui se couchent tard le samedi soir, c'est Sébastien Thoen.
Absolument.
Vous le connaissez, Christophe?
Bien évidemment.
Canal Sport Club ou Journal du Hard?
Au Canal Sport Club.
Bien sûr.
Parce qu'il a dit tout à l'heure dans l'ascenseur. Mais c'est un plaisir d'être ici avec vous.
Bon, vous êtes un peu libre, hein, comme toujours, vous êtes un homme libre, Sébastien.
Oui, mais j'ai joué au foot plusieurs fois dans ma vie, donc je pense que je vais être important pour l'émission.
Non, et on préfère oublier. Christophe Jallet, j'allais vous le dire, donc ce podcast, nous allons évoquer l'intégration dans un vestiaire, l'intégration dans un nouveau club. Comment on fait pour trouver sa place, pour se faire à sa nouvelle vie professionnelle, mais aussi sa vie personnelle, quand on est amené à bouger, à changer quasiment tous les 3 ans, ce qui n'est quand même pas le cas de tous les métiers. Puisque Christophe, vous avez vécu donc à Niort, pas très loin de votre région natale, vous êtes de Cognac, on le rappelle, pas de commentaire Sébastien Thoen. Vous avez vécu ensuite en Bretagne, à Lorient, à Paris, 6 ans, à Lyon, 3 ans, à Nice, 2 ans. Et puis vous et votre famille avez migré l'été dernier de Nice à Amiens, 1156 km quand même. Si on rembobine au début, en 2003, vous débarquez à Niort, c'est votre premier club professionnel. Vous avez quel âge?
Quand j'arrive à Niort, j'ai 14 ans, mais quand je suis passe-pro, j'en ai 18.
D'accord, donc ça fait un moment d'ailleurs que les Chamois niortais vous voulez, hein, vous demandez de venir. Hein.
Ouais, c'est vrai, j'ai eu un premier contact quand j'avais 11 ans. Mais mes parents, à juste titre, m'ont dit « t'es pas assez mûr pour partir, tu restes encore un peu à la maison ». Et même si j'étais un peu déçu au début, je l'ai accepté. Et puis bah, 3 ans plus tard, j'ai refait une détection qui a été plus difficile, plus laborieuse, mais quelqu'un a cru en moi et m'a fait venir. Donc pour au final, après passer 3 ans sport-études, où j'ai eu mon bac, et puis après intégrer le centre de formation, où ça s'est plutôt pas mal passé.
La première entrée dans un vestiaire adulte, un vestiaire pro, comment ça se passe? On se fait tout petit quand on débarque, comme ça, quand on vient du centre de formation?
Clairement, oui. C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était assez intimidant. Il y avait une espèce de froid qui s'installait vis-à-vis des plus anciens. On avait beaucoup de respect, beaucoup de peur, une crainte d'eux, parce que c'est vrai qu'ils n'étaient pas toujours très tendres, que ce soit à l'entraînement ou dans le vestiaire. Mais c'était un premier apprentissage hyper important et c'était, ça permettait de se forger quelques valeurs qui, pour moi, sont indispensables.
Il y avait un peu de bizutage ou pas?
Non, pas vraiment du bizutage, mais bon, il y a des choses qui se faisaient avant, qui aujourd'hui n'existent plus. Comme,
alors, par exemple? Pas la savonnette, tout ça, mais par exemple, qu'est-ce qui se fait que ça a changé justement? C'est moins
guillemets.
Le cas avant. Il y a moins de respect, il y a autre chose, il y a quoi
aujourd'hui? Ouais. Non, mais disons qu'avant, on portait les buts, on ramassait les ballons, on prenait les chasubles, on arrivait les premiers, on partait les derniers.
On ne tirait pas les godasses.
Si, si, c'est on tirait les godasses.
Des pros?
Bien
non.
sûr,
oui.
on cassait leurs chaussures.
Ah, c'est, que... c'est ce que font les Anglais encore
oui,
aujourd'hui.
Les Anglais,
hein.
Oui,
bah, en France, ça n'existe plus.
D'accord.
En tout cas, maintenant.
Mais vous faites quoi alors?
Bah, maintenant, il y a des gens qui sont là pour tirer les buts, ramasser les ballons. Donc, les jeunes,
il n'y a plus de boulot.
Pourquoi je le ferais? Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui est là pour ça.
C'est dommage parce que grâce à ça, vous savez quand même parfaitement cirer les chaussures. Ça compte dans la vie quand
bien
même.
Bien sûr, ça compte évidemment. C'est quand même une notion importante de base. Donc, c'est vrai que maintenant on a les chaussures en plastique, donc on va pas leur demander non plus de les cirer. Faut pas non plus déconner. Mais c'est vrai que voilà, c'était un apprentissage. On sentait bien qu'on rentrait dans un milieu où il allait falloir prouver pour vraiment s'installer. Donc aujourd'hui, maintenant, le jeune, il arrive avec un contrat pro.
D'accord.
Et avec des salaires des fois que même les plus anciens n'ont pas. Donc il y a un statut différent. Les relations sont un petit peu inversées puisque ils sont parfois protégés aussi parce que c'est eux qui ont la valeur marchande et plus les anciens. Donc c'est un équilibre difficile à retrouver par rapport à ce qui se faisait avant.
Et dans ce vestiaire donc des Chamois-Niortais, quand vous y rentrez pour la première fois vraiment au niveau des seniors, ils sont en Ligue 2 ou en National à l'époque?
Non, on est en Ligue 2.
En Ligue 2.
Ouais.
C'est il y a des joueurs importants qui vous chaperonnent un petit peu, qui vous disent bienvenue petit.
Ouais. Bon, on était plusieurs jeunes, donc on serrait les coudes. On a été bien accueillis, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y avait des figures emblématiques du club, comme Bertrand Piton derrière, capitaine assez austère.
Ah oui, Bertrand Piton, Sébastien.
Fabien Safonjon.
Ouais, ça me rappelle un acteur, moi, de Hard. Ouais. Bertrand Piton. Pour une autre raison, pardon.
Je sais pas s'il a une double casquette. Je vais pas demander.
C'était pas le même, Christophe, je pense.
Okay,
mais en tout cas, c'était un sacré acteur, je connais aussi. Enfin bref, il y a un film dans le mois prochain sur Canal. Excuse-moi.
Et il y avait des joueurs pas sympas, vraiment, franchement.
Non, c'était pas sympa, mais c'était sec un peu. Je me rappelle Fred Garny, que j'adorais, Frédéric Garny, qui a joué à Montpellier,
ouais.
qui était là. Il n'était pas tendre avec nous. Il y a quelques mots des fois qui piquaient un petit peu. Voilà, il disait bon, pourquoi les jeunes ils sont là, ils sont nuls. Mais en même temps, c'était sa façon à lui de nous montrer qu'il y avait rien de facile dans ce métier. Et je pense que quelque part ça manque un petit peu quelquefois aujourd'hui, donc sur le moment ça pique, ça peut faire un peu mal, mais au final je pense que c'était vraiment salvateur pour nous.
Mais il y avait pas, est-ce qu'il y avait un centre de formation à New York?
Oui, bien sûr.
Si, mais
ouais,
toi tu étais en centre ou à sport-études?
Non, j'ai fait 3 ans sport-études et après je suis rentré au centre de formation et au bout de ma deuxième année j'ai commencé à intégrer le groupe pro.
Alors vous n'êtes pas nul, la preuve c'est que vous allez au bout d'un moment quitter les Chamois-Niortais, non pas qu'on soit nul quand on reste aux Chamois-Niortais, mais vous prenez du galon et vous décidez de partir à Lorient. C'est un premier déménagement en quelque sorte, c'est surtout la première fois que vous arrivez avec le statut de pro recruté. J'imagine que ça change quand même le regard.
Un petit peu, mais j'étais la première recrue du FC Lorient, il en est arrivé je crois 12 ou 13 derrière. Donc finalement mon statut il était... pas si important que ça. Et puis des grands noms qui sont arrivés comme Fabrice Furet, Steve Marley, voilà des joueurs assez importants. Mais c'est la première fois vraiment que quelqu'un me montrait de l'intérêt, même s'il y a eu d'autres clubs à cette époque-là, puisque j'arrivais en fin de contrat avec Niort. Mais oui, c'était une nouvelle vie. J'avais essayé pendant mes 3 années pro à Niort de déménager tous les ans pour me forcer à me dire que ça allait arriver peut-être un jour dans une autre ville.
Ouais.
Donc j'étais rodé. Donc après, j'ai découvert la Ligue 1. Pour moi, c'était que du bonheur, donc c'était vraiment quoi qu'il arrive que des aspects positifs.
C'est quoi votre situation familiale à l'époque, Christophe Jallet?
À l'époque, je suis en couple,
donc vous
sans
avez,
enfant.
Vous avez expliqué à votre épouse que vous allez être amené à bouger. Il y a un côté précaire, on va pas vous plaindre, c'est des bons contrats, mais c'est des CDD finalement.
Oui, bien sûr. C'est surtout que c'est une nouvelle aventure pour du mieux, donc déjà c'est positif. Toute honnêteté, je gagne un peu plus d'argent parce que c'est vrai que les premières années à Niort, c'était parfois compliqué. Ma femme de l'époque était en cours, donc il y avait un salaire pour deux. Et puis c'était le début de la vie active pour nous, donc on a galéré quelques mois, clairement. Et puis il y avait une petite sécurité supplémentaire avec le bonus de pouvoir faire de sa passion son métier et découvrir le meilleur championnat français. Donc que ça soit elle ou moi, quand la question s'est pas posée, on a foncé direct et on était vraiment très heureux de relever ce challenge.
Tiens, j'ai une question quand même pour Aline, parce qu'on a toujours tendance à demander aux footballeurs, tiens, est-ce que tu as demandé à ta femme ce qu'elle en pensait ? Et c'est une question qu'on pose assez rarement aux footballeuses. Est-ce que vous avez peu changé dans votre carrière ? Vous avez joué à Juvisy, à Saint-Brieuc et à Juvisy. Est-ce que ce sont des décisions qui se prennent en famille ? Ça, c'est bien.
Oui, ça se prend en famille, sauf que moi je vis avec quelqu'un qui est dans le football, donc c'était un peu plus facile. Sauf qu'après, il y a des priorités, il y a des choix. Moi, j'ai jamais été pro, donc j'avais des études à faire. C'est pour ça que je suis partie à Saint-Brieuc et je suis revenue à Juvisy pour travailler. Donc maintenant PFC, Juvisy pour ceux qui n'ont pas fait lien. Voilà, c'est des choix, forcément des choix familiaux. Sauf que voilà, moi, mon conjoint travaillant sur Paris, il fallait forcément. J'ai eu quelques touches à l'étranger, mais c'était un peu compliqué. On voulait fonder une famille, donc la question s'est posée. La question géographique aussi, parce que je pense que voilà, on parle de l'Orient, mais il y a des coins qui sont quand même par la météo quand on vient du sud. Voilà, il y a quand même des choix qui se font comme ça. Donc, mais la famille reste prioritaire. Ça doit être un projet commun. C'est pas un projet individuel dans une famille. Il faut qu'il y ait quelque chose de commun quand même. Pour choisir au mieux.
Alors, on n'est pas dans une spéciale météo, mais c'est vrai que Christophe Jallet, il a vécu à Amiens, à Nice, à Lyon, partout. Donc, il va pouvoir nous faire un point complet.
Partout.
Voilà, exactement. En 2006, Christophe Jallet, c'est le grand pas. Vous signez au Paris Saint-Germain. Comment vous apprenez déjà que le PSG s'intéresse à vous ?
Ça faisait déjà une ou deux saisons qu'ils avaient approché mon agent en me disant « il nous intéresse, pourquoi pas ?» Et puis, c'est Alain Roche qui était emballé par mon profil. Et puis, Lorient n'a pas voulu me lâcher les premières années. Il y a eu d'autres clubs qui sont arrivés aussi. On est resté à Lorient parce que voilà, le projet était sympa et puis parce que c'était peut-être pas le moment de partir. Et puis, il y a eu en 2006 vraiment un souhait de ma part de rejoindre le PSG qui était un des plus grands clubs français et qui forcément était une perspective d'évolution dans ma carrière. Donc, voilà, on a réussi à trouver un accord tous ensemble pour pouvoir justement m'amener là-bas. Et voilà, et ça a été, je pense, une très très bonne chose pour moi, pour la suite en tout cas.
Ça fait un peu peur ou pas au départ ?
Oui.
Oui.
Comme je le disais, de Niort à Lorient, le passage de Lorient à Paris, il a encore fallu que je prouve que j'étais pas une erreur, quoi, que finalement j'avais les qualités pour m'imposer au PSG. Donc il a fallu redoubler d'efforts et c'était vraiment une super expérience de départ. Parce que je suis tombé sur un groupe top avec des amis que je garderai pour la vie. Donc voilà, c'était vraiment hyper enrichissant personnellement et sportivement.
On va parler du vestiaire, mais quand on arrive à Paris, dans ce PSG-là, qui, rappelons-le, n'est pas encore le PSG des Qataris,
pas du tout, oui.
Mais qui reste quand même un club important, est-ce qu'on est pris en charge matériellement, pour le logement, etc., par rapport à ce que vous avez connu lorsque vous débarquez à Lorient ?
Oui, il y a une évolution de ce côté-là aussi. C'est vrai que j'ai été bien plus pris en charge dans les démarches administratives, dans le fait de trouver une maison, une école pour les enfants, une crèche. Voilà.
Ils s'occupent de tout carrément ou pas ?
C'était pas ils s'occupaient. Maintenant, ils s'occupent vraiment de tout. Mais c'était déjà supérieur à ce que j'avais connu avant. Donc, il y avait déjà une grosse évolution pour moi, en tout cas.
Donc, ils vous disent, il y a telle baraque possible.
Oui.
C'est Alain Roche qui va faire babysitter de temps en temps. Voilà.
Non, il faisait pas ça.
C'est sympa, il est très sympa. Là, il adore les enfants.
Et l'arrivée dans le vestiaire, comment ça se passe ? Est-ce que la première fois que vous arrivez au camp des loges, vous avez le trac, Christophe Jallet ?
Je suis arrivé en stage. Ils étaient en
stage de troisième.
À Port-Cruesti, en stage de pré-saison.
Ah ouais.
Donc déjà, je suis arrivé, premier gros choc pour moi. On est seul en chambre. Donc j'ai ma chambre pour moi tout seul.
Wow. Le luxe.
Le luxe. Avant.
Et en plus, tout près de Lorient. Donc c'est
j'étais
rigolo.
J'étais pas très loin, c'est vrai.
Ouais.
Et du coup, je suis tout seul en chambre. Il y a ce côté pratique de dire, j'ai mon indépendance, mais à la fois aussi pour. Engager une conversation, engager des relations avec les autres. Je me dis que ça va être peut-être un petit peu plus tendu, sauf que ça n'a pas été du tout le cas, puisque ça s'est fait naturellement. Je suis quelqu'un socialement qui est assez cool, et c'était la même chose pour la majorité du groupe parisien, donc ça s'est fait assez rapidement, une partie de tarot, une partie de pêche, et puis c'était parti, quoi.
Et le premier entraînement, est-ce que dès le premier entraînement, vous vous dites « Waouh, j'ai passé un cap, là, c'est autre chose ».
Oui, je me le suis dit, puis on me l'a dit aussi. Je me souviens de 2-3 réflexions, ça me faisait rire.
C'est-à-dire quoi? On vous dit, faut que tu te réveilles?
Non, pas ça, mais ouais, appuie tes passes, t'es plus à Lorient avec un tel ou un tel, quoi.
D'accord.
Ouais, t'as passé un niveau, là, en rigolant, bien sûr, ouais. C'était pour chambrer, mais toujours une part de vérité, généralement, quand on entend ces mots-là. Et du coup, oui, bah, encore une fois, se dire, bah, faut que je me dépasse, faut que je hausse mon niveau pour être au leur, puisque pour moi, voilà, j'étais joueur du PSG, mais j'avais rien prouvé à Paris. Il fallait que je montre que j'étais digne de porter ce maillot aussi.
Et on sent qu'on progresse à chacune des séances.
Ouais, c'est vrai que je l'ai encore plus remarqué après avec l'ère Qatari, où là il y a eu des joueurs d'un autre standing qui sont arrivés.
Est-ce que t'es impressionné? Alors pour le coup, t'étais impressionné déjà en 2006 ou après vraiment? Et ça change tout ton rapport au vestiaire avec les autres joueurs. Est-ce qu'il y a des joueurs qui vraiment t'intimident entre guillemets parce que t'es un fan de ballon et que tu vois des grands joueurs?
Ouais, bien sûr. Tu parles de quand? En 2006 ou après?
Les deux époques.
Bah, les deux époques, oui, c'est sûr. Quand je suis arrivé, même ne serait-ce que de croiser Grégory Coupé, il joue pas à mon poste, mais c'est un gardien de but. Mais pour moi, c'est le summum. Il est en équipe de France, il a fait des super clubs, il vient de l'Atlético. Et puis je discute deux minutes avec lui et je vois que c'est un mec comme moi en fait. Et c'est là où tu te dis, bon, même peut-être je peux devenir un grand joueur parce que finalement les grands joueurs ils ont aussi mon état d'esprit. Ça c'est quelque chose d'important quand tu arrives dans un groupe comme ça, de pas te sentir inférieur.
Comment on arrive à s'intégrer justement? Comment se construisent les amitiés? C'est une question qu'on se pose parfois avec nos enfants dans la cour de récréation, mais c'est un peu pareil. Voilà, comment on arrive à sentir quels sont les joueurs avec lesquels on peut devenir un peu plus que coéquipier?
Bon, les affinités, ça ne se commande pas, ça vient, c'est tout. On sent de toute façon si on a des passions communes, enfin, ou des passions, ou des conneries communes. Parce que par exemple, moi j'adorais jouer au tarot, et dès que je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un chantier de tarot. Je me suis dit, bon bah ces gars-là, c'est sûr, ça va être mes potes, c'est sûr et certain. Et puis, ils ont eu la gentillesse de me dire, tu sais jouer, bah viens. Parce qu'on était 6, le tarot ça se joue pas à 6, mais bon, pour moi, ils ont fait une rotation, il y en a un chaque tour qui passait son tour.
Vous étiez remplaçant même au tarot, dit Christophe Jallet.
Ah ouais, c'est comme ça, il faut faire ses preuves. Mais je suis passé titu après.
Ouais.
Surtout au tarot. C'est comme au taureau, il y en a un au milieu.
C'est ça.
Bah, voilà.
Sinon, il y a l'argent, peut-être des enveloppes, on peut s'acheter des amis, comment ça se passe?
Ouais, ça peut
être un grand joueur qui passe par son agent, comment ça se passe?
Ça peut se passer comme ça.
Voilà.
Éventuellement.
On peut être copain avec son titulaire, enfin son concurrent, je veux dire, au poste, on peut être copain ou. Bah, où ça nuit.
Il y a des fois des joueurs, on sent bien qu'on ne sera jamais leurs potes, qui sont notre concurrent direct.
On ne te voit pas, il n'y a pas d'image, on ne te voit pas.
Non, mais franchement, je ne l'ai pas senti personnellement, mais je l'ai vu dans pas mal de clubs, ça m'est arrivé d'en croiser. Donc, comme ça ne me concerne pas, je vais taire leur nom. Mais,
à la roche.
Non, j'avais un super rapport avec Marco Serra, qui était à l'époque.
Vous étiez concurrent en plus.
Mais bon, c'est un mec qui a le cœur sur la main, il est pasteur. Non, c'était un super mec et pas de problème. Enfin, moi, ça n'a jamais été. Après, tout dépend comment on voit la concurrence. Pour moi, la concurrence, c'est un facteur de progression. Donc, il n'y a pas de souci. Je le dis encore aux jeunes aujourd'hui. Des fois, quand je joue, moi, je leur dis, mais ça ne vous fait pas mal au cul de me voir jouer moi, alors que c'est vous qui devriez être à ma place, quoi. Donc je pense qu'il faut le voir comme ça, la concurrence c'est un facteur de progression et pas un handicap, loin de là.
Comment ça se passe les numéros? On sait que les joueurs attachent beaucoup d'importance aux numéros, il y a une sorte de marché des numéros. Est-ce que vous avez des idérata quand vous débarquez au PSG?
J'ai jamais trop attaché d'importance, mais oui, j'aurais voulu un numéro.
Lequel?
Le 24.
Ouais,
parce que c'est celui que j'avais à Niort et à Lorient.
Ouais, et c'est pas possible.
Bah non, il y avait Trippi Maconda qui l'avait.
Ah bah oui, quand même, Trippi Maconda.
Ah, mais
quand même.
Ouais.
Non, mais c'est pas. Voilà, il était pris. Il était pris, donc voilà, j'avais le choix.
C'était par rapport à autre chose en plus. Mais on va pas en parler maintenant. Mais bon.
Et vous avez quoi du coup?
J'ai pris le 26, j'ai pris ce qui restait.
D'accord, bon, on n'est pas très loin, hein, franchement.
Non. Bah non, ah,
c'est cohérent.
À 2 cm. Enfin, pardon.
Merci, Philippe.
Le PSG, en tout cas, va grandir, va changer de propriétaire, changer de statut, et vous observez ça aux premières loges. Mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites que le projet va être tellement grand qu'il risque de vous rejeter?
Oui.
Bah, dès la première minute, non?
Non, pas dès la première minute, mais c'est vrai que quand on voit débarquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs en l'espace de 15 jours, bon ben on se dit ça va bientôt être mon tour. Puis le problème c'est que j'ai mes potes depuis 3 saisons qui sont là et on voit bien que y en a un qui va partir parce qu'il a moins de temps de jeu, hein, on lui dit clairement tu vas plus jouer. Donc bon.
Là, il se dit, je vais être titulaire au tarot, les... c'est bon.
Bah, à la fin, il n'y avait plus de tarot, c'est clair, comme ça, c'était, ouais, c'était réglé. Mais c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, c'est encore une fois remise en question, se dire, bah, il va falloir que je sois deux fois plus fort si je veux rester. Parce que les joueurs qui arrivent, c'est un autre niveau.
Et la petite ambiance dont vous parliez, on sait tous qu'il y avait une super ambiance dans cette équipe, mm-hmm, beaucoup de barbecue chez les gens, chez les autres, avec mm-hmm Sylvain Armand qui paraît-il était un spécialiste du barbecue. Mm-hmm. Ça va perdurer avec l'arrivée des stars.
Oui, jusqu'à temps qu'on soit...
Plus assez.
Jusqu'à partir du moment où... Parce que ça a été notre marque de fabrique, on a...
Le barbecue.
Ouais, non, mais non, l'esprit de groupe, ouais, c'est-à-dire la vie de groupe, c'est vraiment ce qui nous a... Enfin, moi, ce que je retiens du PSG, au-delà des titres que j'ai eu la chance de gagner, c'est ça, c'est vraiment la vie de groupe. C'était ce qui nous permettait parfois, dans des moments difficiles, de faire abstraction, surtout quand on joue à Paris, de l'extérieur, et de vraiment se regrouper, se focaliser sur nous et passer un bon moment agréable. Ben, le lendemain, quand on revient, on se voit avec le sourire et peut-être qu'on évacue un peu mieux la frustration qui peut tourner autour du club. Donc c'était quelque chose de hyper important, et sur les dernières années à Paris, évidemment, il y en avait une vie de groupe, mais elle était différente de celle que j'avais pu connaître avant.
Alors, vous ne perdez pas votre place dans le groupe, vous restez, non mm-hmm seulement vous restez, mais Carlo Ancelotti va même vous confier le brassard de capitaine, mm-hmm, c'est quand même pas rien. Mm-hmm. Vous devenez un baron, entre guillemets, enfin, vous avez un statut dans ce vestiaire. Quand un nouveau arrive, du coup, quand on est là depuis longtemps, est-ce qu'on joue un rôle dans l'intégration? Est-ce que vous allez voir Javier Pastore en disant « Il y a peut-être des... Meliamo, Christophe, si tu veux un plan de métro de Paris, je peux t'aider ?»
Bah oui, on est... À l'époque, on était encore une bonne bande qui était présente depuis un moment au PSG, donc c'est vrai que quand Javier est arrivé, par exemple, ou même qui est arrivé... Blaise, bon, c'est plus facile avec les Français forcément d'aller vers eux, même ouais, tous les étrangers, Salvatore,
Sirigu.
On les a inclus directement dans notre groupe, et on a, évidemment qu'on a été vers eux. C'est vraiment un truc qui se faisait très très bien à notre époque, l'intégration des nouveaux joueurs. On a toujours essayé de faire au mieux pour qu'ils se sentent bien. Après, ça a aussi donné un petit peu en retour, en essayant de parler français, mais il y avait toujours un échange constant, et c'était vraiment... Voilà, vraiment génial, c'était un super moment.
Ça reste un vestiaire de copains, quoi.
Bah ouais, c'est ça qui est bizarre quand je raconte souvent des anecdotes à des amis, à d'autres joueurs, mais ils me disent, mais sérieux, quoi. Et je dis, bah ouais, ça se passait vraiment comme ça. C'était. Il y avait des superstars, mais on était quand même encore potes.
Mais
quoi,
ni à Lyon, ni à Nice, ni à Amiens, tu retrouves ça. Il n'y a pas vraiment l'équivalent.
À Lyon, je l'ai retrouvé un petit peu, enfin un petit peu beaucoup, la première année où je suis arrivé aussi. Mais moins à Nice et moins à Amiens, parce qu'il y a un écart générationnel qui s'est créé maintenant. J'ai pas forcément les mêmes envies, les mêmes attentes.
T'es copain avec l'entraîneur maintenant.
Ben, il a mon âge, l'entraîneur, donc forcément ça te pose des questions.
Justement, donc après 6 ans au Paris Saint-Germain, avec deux titres de champion, une Coupe de France, une Coupe de la Ligue, vous signez donc à l'Olympique Lyonnais, qui est un rival. Mm-hmm. Déjà familialement, quitter une vie dans laquelle on est installé depuis 6 ans, ce qui, à l'échelle du foot, est absolument énorme. C'est un petit peu un drame quand même, non, familial?
Oui et non.
Non?
Bah non, c'est une nouvelle aventure qui commence, un nouveau départ. Faut le voir comme ça. C'est sûr qu'on a des habitudes assez ancrées. C'est sûr, on connaît du monde, on a des amis, les enfants vont à l'école. C'est vrai qu'il faut remettre tout ça...
400 mètres au Trocadéro, là, peut-être. Vous étiez vers quoi, à Lyon? Vers Saint-Jean, quartier Saint-Jean?
C'est génial, Lyon aussi, franchement. Non, mais je partais pas non plus pour retourner à Niort, quoi. Donc, ouais. J'allais découvrir. Non, mais sans être péjoratif, c'est la vérité. Je vais dans une grande ville française découvrir autre chose, un grand club français. Voilà, j'ai fait le tour de Paris, j'ai passé de super années, j'ai gagné des titres, et ben un nouveau challenge.
Et vous arrivez avec un passif de confrontation, Lyon-PSG, il y a mm-hmm peut-être eu des embrouilles sur les gros matchs. Est-ce qu'on vous regarde un petit peu de travers, hein? Comment on devient pote avec des joueurs qui ont été des adversaires pendant des années?
Facilement. Enfin, pour moi, c'est facile pour moi, parce que déjà, je m'embrouille rarement sur un terrain avec d'autres joueurs, ça ouais peut arriver. Mais c'est assez rare, en tout cas méchamment. Et puis, il faut dédramatiser. Après, ce qui se passe sur un match, ce n'est pas ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Donc voilà, on a tous des sautes d'humeur, et puis il faut savoir faire abstraction de tout ça.
Et vous découvrez des joueurs que vous connaissez sans les connaître, en fait, hein. Vous les affrontez depuis ouais des années, ouais, et vous vous dites « Ah tiens, je ne le voyais pas comme ça ».
Oui, complètement, oui. Mais c'est souvent ce qu'on dit de moi d'ailleurs aussi. Les autres joueurs me disent « Mais on ne croyait pas que tu étais comme ça, en fait ».
Ah ouais.
Ouais, j'ai une image différente.
Vous avez quoi comme image, Christophe Jallet?
Bah, j'ai sympa, pas, puis en fait non.
Non, j'ai l'image du gars hyper sérieux, de professionnel à mort, alors qu'en fait, je suis un gros déconneur.
Non,
je suis un gros déconneur en fait. J'arrive, je sors des conneries toutes les deux minutes. Enfin, moi, ma façon d'être heureux, c'est de rigoler.
Bah ouais. Là, ça se voit pas, mais on était en slip. Heureusement qu'on a la radio. Impossible au CFC en slip. Moi, j'aimerais bien, mais j'imagine les gens qui regardent.
On n'a jamais voulu. J'ai tenté de le faire.
Mais ça viendra, t'inquiète pas. C'est Hervé qui s'en occupe.
Je connais une émission le samedi soir où ce serait possible.
Absolument. Ouais.
Et ce ballon renvoyé par Traoré directement sur Jallet. La frappe de Christophe Jallet.
Quel but.
Quelle frappe de Christophe Jallet. Le pied gauche, la lucarne. Un but pour les photographes. Et un but très important pour l'Olympique Lyonnais. 1-0.
Oh, quel but. Magnifique.
En parlant de secrets de vestiaire, justement, est-ce qu'on vous demande des secrets industriels lorsque vous arrivez à l'OL? Vous avez passé 6 ans au Paris Saint-Germain. Est-ce que des Lyonnais vous demandent des petits secrets sur le PSG?
Ouais, bon, c'est toujours des petites anecdotes.
Ouais.
Mais surtout
des secrets de méthodologie, on va dire.
Ah,
non,
ça, non.
Non.
Pas trop. Après. Il y a le directeur du pôle performance de Paris qui avait signé à Lyon, donc je pense qu'il a dû en donner plus que moi. On est arrivé en même temps. Donc non, après, des fois sur des méthodes, de toute façon dans tous les clubs, encore aujourd'hui on me demande alors comment c'était l'éveil de match là-bas, qu'est-ce que tu faisais, c'est quoi la préparation pour toi qui est là, qu'est-ce que tu faisais à Paris, c'était quoi le type de repas, est-ce que vous faisiez...
Voilà, est-ce que Nasser a une Mercedes 600 ou 800?
Exactement.
Ça fait bizarre de se retrouver avec le maillot de l'OL alors qu'on a porté celui du PSG pendant 6 ans. Ou ça devient tout de suite naturel, ça devient tout de suite une seconde peau naturelle.
Ouais, non, ça devient naturel. J'ai toujours évoqué avec respect mes années parisiennes et je les ai toujours remerciées pour tout ce qu'ils m'ont apporté et permis de devenir le joueur que j'ai été. Mais après, on quitte un club, c'est pas pour autant que je vais les renier, mais ça y est, j'ai un nouveau maillot et il faut l'enfiler le plus vite possible, sinon ça a rien de vivre dans le passé, on change pas de club, on y reste pour toujours dans le même.
Et donc là, tu arrives à Amiens, Christophe.
Non,
là,
pas d'un coup. Il y a eu un sas.
Est-ce que la vie quotidienne d'un joueur de Lyon ressemble à la vie quotidienne d'un joueur du Paris Saint-Germain?
Oui.
En tout point?
Oui. Parce quasiment.
À Lyon, il y a beaucoup de joueurs du cru, par exemple, il y a beaucoup de joueurs lyonnais.
Ouais, tout à fait.
Qui sont chez eux, on va dire.
Ouais, ouais, c'est sûr. Bah oui, après, dans ta journée type, t'as à peu près le même nombre de bouchons, le même temps pour aller à l'entraînement. Les séances, c'est des séances de haut niveau, avec des joueurs de grand talent, même si c'est vrai que quand je suis arrivé, c'était le renouveau lyonnais qui se basait sur le centre de formation, parce que je pense qu'il devait y avoir 90% de l'équipe qui était formée au club. Mais c'est des entraînements de haute qualité, avec le même type de récupération derrière au niveau des soins, au niveau des repas. Il y a une très bonne évolution. Donc je ne suis pas dépaysé du tout. Pour moi, c'est, on va dire que j'ai des joueurs moins de renom et il n'y a pas la Ligue des Champions. Voilà ce qui change.
Tout ce qu'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire, à Paris, il y a une pression terrible, il y a les médias, il y a ceci, il y a cela.
Il y a la vie aussi,
absolument, la pression de la vie, etc., sociale, etc. En fait, dans la réalité, tout ça, ça glisse. Vous vivez quasiment pareil quand c'est Nice, Paris ou Lyon,
Clairement. Ouais, c'est... Il y a des clubs où même la pression des supporters est bien plus forte au quotidien que celle du PSG, puisque c'est quand même une très grande ville. Mmh. On peut aller se balader dans l'hypercentre de Paris sans se faire embêter tous les... Enfin, sauf si on est Mbappé ou Ibrahimovic, bien sûr, mais sans se faire embêter toutes les 5 minutes pour une photo ou un autographe. On arrive à passer inaperçu, alors que parfois, dans des plus petites villes, des plus petits clubs, c'est beaucoup moins facile.
Ah ouais, par Nice?
Ouais, Nice, ça va encore. Il y a quand même pas mal de touristes.
Ah d'accord.
Ouais.
Sur le déménagement à Lyon, est-ce que vous êtes déjà confronté à des questions administratives qui vous posent problème? Il y a un choix de logement. Est-ce que vous posez la question? Est-ce qu'on vit à la campagne? Est-ce qu'on vit au centre-ville? Enfin tout ça, comment ça se passe ces choix?
Bah il y a plusieurs choix, oui, qui se posent. Déjà, est-ce qu'on se met loin du centre d'entraînement? Généralement, on essaie de s'en rapprocher le plus possible pour avoir le moins de chances d'arriver en retard le matin ou de mettre le moins de temps possible pour aller à l'entraînement et pour en revenir. Ça, c'est la première des choses. Et après, c'est d'essayer d'être aussi bien placé pour les enfants, pour l'école, pour que ta femme, elle soit à l'aise, qu'elle puisse avoir de quoi faire si elle ne travaille pas, si elle travaille, qu'elle soit elle aussi pas très loin de son boulot. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que ça, c'est des décisions qui se prennent surtout à deux.
Et la famille s'y fait?
On est en couple, oui. Bah, la famille s'y fait. Hein. Puis de toute façon, on est ensemble du début à la fin. On est dans le même projet de vie, donc voilà, on serre les coudes et on s'aide l'un l'autre pour que justement on trouve nos marques le plus rapidement possible.
Entre-temps, Christophe Jallet, il y a eu l'entrée en équipe de France. On va faire une petite parenthèse sur cette entrée dans un autre club, hein, qui est le Club France. Ouais. Racontez-nous un petit peu votre arrivée. Est-ce qu'on découvre, même quand on est habitué au football professionnel depuis des années, est-ce qu'on découvre des mœurs particulières, on va dire, chez les Bleus ?
Pas tellement. Enfin, c'est encore un cran au-dessus, c'est une pression de plus. C'était vraiment, voilà, pour moi, un moment incroyable, déjà, l'arrivée au château. J'arrivais en même temps que le nouveau staff, puisqu'ils venaient de prendre leur fonction et j'ai été appelé pour la première sélection. Donc, on était tous un peu nouveaux. Donc, finalement, c'était un bon point. Je parle pour le staff et moi, hein, pas pour parce que les joueurs, il y en avait quand même beaucoup qui étaient là avant.
Et Didier Deschamps, il connaissait un peu quand
oui,
même.
Oui, il connaissait, mais bon, c'est pas le même statut quand c'est joueur ou entraîneur. Ça, c'est sûr qu'il le connaissait bien mieux que moi. Mais voilà, bah, il faut vite prendre ses marques aussi et pas se dire que. En fait, je pense que quand on arrive dans une sélection, avec le recul, je me dis que vraiment, il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité, sinon, t'es foutu.
Ouais.
Parce qu'il y a des joueurs de tellement de grands talents que sinon, on se perd et on n'arrive à rien. Je pense.
Et même si on ne le montre pas, à l'entraînement, pareil, on se dit quand même, oulala, là, ça va très très vite.
Ouais, ouais. Surtout, ça va très vite et surtout, fais gaffe, faut pas que tu déconnes, quoi. Parce que là, c'est vraiment concentration maximale, te dire, faut pas que je perde un ballon. Tu joues avec des gars que tu regardes à la télé depuis des années, comme Benzema qui joue au Real Madrid, et que tu as à lui faire une passe, ben, vaut mieux pas que tu te déchires, parce que ne serait-ce que pour ta confiance personnelle, ça aide. Et puis aussi pour le regard. En fait, c'est juste une question de regard. Dans tous les clubs que j'ai fait et en sélection, j'ai essayé d'attacher une importance sur le fait que sur le regard des autres vis-à-vis de moi, c'est-à-dire que leur considération.
Parce qu'ils te jugent au départ.
Et forcément, on est tous jugés dès le début. Et dès le début, il faut montrer que tu es là. Parce que si tu montres que tu es faible, que ça soit dans ton caractère, physiquement, techniquement, ben, c'est plus facile. Enfin, c'est plus difficile pour toi parce qu'on va te marcher dessus.
Il lui a raté des passes, Benzema, parce qu'il joue plus, t'as vu. C'est comme quoi, ça va être lié. Je pense que c'est lié.
Je ne sais guère.
La difficulté, c'est aussi que t'as peu de temps pour prouver. C'est-à-dire que ça reste clair. Une sélection, donc il n'y a rien d'établi, même si on dit que dans les clubs, ce sont des contrats précaires, on sait qu'on est là pour 2 ou 3 ans. Là, sur la sélection, c'est, on va dire, une semaine, 10 jours pour prouver qu'on a le niveau pour rentrer dans cette équipe, pour rentrer en tout cas dans ce groupe-là. Donc là aussi, ça amène une pression particulière.
Ah,
et mentalement, la différence, elle est là aussi. C'est-à-dire que voilà, il faut être là à l'instant T.
Et t'arrives combien de temps justement avant le match ? Il y a une préparation de combien de jours, quelque soit
Ouais, c'est une semaine, quoi.
Ouais,
il y a une petite semaine, quoi.
C'était au mois d'août, là. Il y avait juste un match contre l'Uruguay. C'était, il devait y avoir 10 jours de rassemblement. Non, même pas. Non, c'était une semaine. T'as raison.
Bah en fait, là, ils arrivent le lundi pour jouer le premier match le vendredi et le deuxième le mardi. Donc, ça reste quand même extrêmement court, sachant qu'il y a le lundi récup, enfin, on est en décrassage, et qu'on commence à travailler vraiment que le mardi pour match le vendredi, où là, c'est pareil. Y a pas... Donc, c'est assez court pour prouver.
Et quand on revient en club, auréolé de sa première sélection, est-ce que le statut a changé ?
Ben,
un peu quand même.
Je ne l'ai pas senti comme ça, mais oui. Sans doute un peu. Disons qu'on est passé vraiment dans la cour des grands. Et puis, mais bon, après, t'as deux façons de voir les choses. Soit tu restes là-dessus et tu crois que t'es arrivé, ou soit tu dis, bah, maintenant, il faut que je m'accroche pour y rester. Donc, voilà, je pense que... moi, ça a toujours été un perpétuel combat pour obtenir les choses. Une fois que tu les as, le plus dur, c'est de les garder. Donc, voilà, ça s'arrête pas là. Mais c'est vrai que pour la confiance... Pour toi, en tant que joueur, quand tu rentres dans ton club, évidemment que tu es au top. Quoi.
Tu en as vu dans le vestiaire qui ont été en sélection et qui, quand ils sont revenus, n'étaient plus les mêmes, enfin, qui se croyaient arrivés et qui avaient dérivé un peu.
Ça peut arriver. Je ne l'ai pas vu clairement. Après, c'est petit à petit, des fois, qu'on ne se sent pas glisser. C'est vrai que...
Bonnemer, par exemple.
Matt, malheureusement pour lui, il a été présélectionné un nombre incalculable de fois, il n'avait jamais été appelé.
Ouais, c'est pour ça que
c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour lui.
En 2017, nouveau déménagement de la famille Jallet. Vous avez des prix sur le déménagement?
Pas du tout, malheureusement.
Attendez, c'est payé par le club, non?
Oui.
Bon, alors voilà. Pas, hein, faites pas le malin.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps.
Voilà, il y a des devis.
C'est pas les joueurs qui viennent t'aider comme des potes, c'est le week-end.
Qu'est-ce que tu fais dimanche matin?
C'est Ronaldinho et CRA qui viennent te porter des meubles quand t'es parti à Lyon.
Oui, il y a des joueurs qui sont venus m'aider à Amiens.
Donc départ de la famille Jallet à Nice, c'était un choix de vie, un choix sportif. Est-ce que vous aviez d'autres options déjà? Comment ça s'est fait?
Oui, je n'étais pas en fin de contrat à Lyon. C'était un choix clairement sportif parce que on était deux au poste à Lyon, Raphaël et moi, et ils ont recruté Tété qui jouait à l'Ajax Amsterdam et qui nous avait éliminés en demi-finale de Ligue Europa. Donc je pense qu'il l'avait pas recruté pour enfiler les perles.
Ouais.
Et quand je l'ai vu arriver, j'ai dit ok, d'accord, c'est soit moi, soit Raphaël. Donc j'ai pris les devants en fait parce qu'il y avait la Coupe du Monde un an plus tard et j'étais encore dans le groupe France et je voulais pas passer à côté. Donc il fallait que je trouve un nouveau challenge, un club qui joue l'Europe et Nice s'est présenté et le choix s'est fait assez rapidement.
Et là encore il faut s'adapter, j'imagine que vous vous appuyez sur vos expériences passées, l'intégration c'est presque plus simple.
Ouais, et puis bon c'est vrai que... J'arrive à Nice avec un statut d'international aussi, en cours. Donc c'est toujours aussi important parce que le regard des autres, forcément, il est différent. Donc j'arrive à Nice et c'est vrai qu'il y a des joueurs qui tout de suite viennent vers toi pour te demander « Alors, c'était comment à Paris? Comment il est Zlatan? L'équipe de France, comment c'est ?» Donc ça engage une discussion, ouais. Ça engage une relation.
Il est gentil.
Oui, oui. Ben oui, évidemment, tout le monde, il est gentil.
Moi, j'ai envie de savoir, au moment où on décide de partir, parce que quelque part, c'est toi qui as décidé en 2017 de partir, comment ça se passe dans le vestiaire? Tu en parles à tes coéquipiers ou surtout, tu n'en parles pas du tout? Quand même, tu sondes un petit peu? Comment tu...
Oh, moi, je parle.
À titre personnel, vous parlez entre vous, oui, tout ça, c'est bruit.
Il y a des fois où il ne faut pas en parler. Quand c'est, par exemple, un joueur qui veut partir parce qu'il est très fort...
Ouais.
Et que ça peut être une perte pour le club, il va pas crier sur tous les toits qu'il va partir parce que sinon ça peut créer des histoires. Après moi je suis dans un statut différent où je sais même pas si le club veut me garder puisqu'on est trois au poste, il y en a forcément un qui doit partir. Donc j'ai pris les devants en fait. Donc j'en ai parlé clairement au coach, à tout le monde. Voilà, tout le monde était au courant très vite que je sentais qu'il comptait plus sur moi, donc il fallait que je trouve quelque chose d'autre si je voulais faire la Coupe du Monde un an plus tard.
Et quand vous décidez de partir, on dit que les footballeurs s'attachent peu, qu'ils restent assez peu en contact avec les gens qu'ils ont croisés. Déjà, comment vous dites au revoir à investir au moment de partir?
Tout dépend comment ça se passe. Est-ce qu'on a le temps de dire au revoir? Est-ce que c'est programmé? Est-ce qu'il faut partir du jour au lendemain? La difficulté, c'est ça. Après, on se recroise forcément sur le terrain l'année d'après. Le mieux, c'est de dire au revoir à tout le monde. Mais moi, ça n'a jamais été facile parce qu'à chaque fois, c'était... Allez, faut partir maintenant. Faut aller passer la visite. On est d'accord, faut partir. Ça m'est arrivé une fois d'être joué au golf. Et mon agent m'appelle, dit faut qu'on soit dans 4 heures. Quand je suis parti de Paris, faut qu'on soit dans 4 heures à Lyon. Ok.
D'accord.
Là, je peux pas dire au revoir. Mais on revient pour le déménagement.
Ouais.
Donc, forcément, on repasse au vestiaire, dire au revoir
quoi,
à tout le monde.
Ah, je suis libre. Ah, ça tombe bien.
Et voilà, ça se passe comme ça. Ouais.
Bon, après deux saisons à Nice, donc direction Amiens, à l'autre bout du pays, vos enfants, ils vous dites pas à un moment donné, papa, t'es gentil, on en a marre de changer d'école?
Si, évidemment, ça, c'est un grand problème. Puis même leur adaptation, ils changent de chambre, ils changent de. Même si on peut croire que c'est des petits détails, mais faut se refaire des amis, faut retourner dans une nouvelle école. On change de maison, il faut se refaire des habitudes en fait, c'est vachement perturbant pour les enfants. Nous adultes, on a la capacité à gérer et même si on peut se dire que c'est pas compliqué pour eux, je pense que des fois dans leur petite tête ça les perturbe et c'est un des points négatifs de ce métier-là, comme peuvent l'être, les enfants de personnes qui travaillent à l'armée ou dans ces métiers-là, c'est perturbant. Ça, pour eux, c'est sûr et certain, même si ça se voit pas forcément, même si on peut toujours dire ouais, ça va, avec tout ce qu'ils ont pour vivre, ils vont pas se plaindre. C'est pas une question de se plaindre, c'est juste une question de dire que vraiment pour les enfants, ça pose forcément des problèmes.
Et ça, c'est un petit billet, faut que tu offres une PlayStation à chacun, il y a des nouveaux jouets. c'est obligé de dire oui, on a déménagé, donc je vais être sympa, et à Noël, c'est la folie. Quoi.
Plus sérieusement, Sébastien, c'est pas sérieux. Plus sérieusement, l'étranger ne t'a jamais tenté ou justement c'est un peu le côté famille et copains et autres qui t'a bloqué?
Ouais, complètement. Bon, il y a plusieurs facteurs. Déjà, les premières propositions à l'étranger sont venues à Lorient, puis j'ai eu Paris. Donc je me suis dit, Paris, c'est quand même déjà une belle évolution. Et puis une fois que j'étais à Paris, pour moi, c'est comme si j'étais à l'étranger. J'ai vécu, c'est pas tout à fait ça, mais j'ai pas la culture étrangère, mais j'avais un coach étranger, j'avais des partenaires étrangers avec des méthodes de travail qui ressemblaient absolument pas à tout ce que j'avais connu avant. Donc finalement, ça s'est pas imposé pour moi quand j'étais à Paris. Et puis après, j'ai eu une situation familiale qui a évolué et je voulais pas partir à l'étranger pour pas être loin de ma fille, ma grande fille, pour pouvoir être un coup de voiture, un coup d'avion, un coup de train d'elle pour pouvoir aller la voir le plus souvent possible. Donc c'était clairement pour raison familiale que je suis resté à la fin en France.
Vous avez 36 ans. Pour vous, ça, par exemple, sur le dernier contrat, là, quand vous avez quitté Nice pour Amiens, c'était une évidence de continuer par rapport à tous ces déménagements dont vous parlez justement. On s'est pas dit, bon, j'ai 36 ans, je vais arrêter.
Bah non, parce que j'avais encore la flamme. Donc c'est ça qui dicte. J'avais sur la fin de saison à Nice, je me sentais bien et j'avais vraiment encore envie de jouer. Je me sentais pas d'arrêter, vraiment pas. J'avais besoin encore. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et puis le projet d'Amiens est arrivé et voilà, ça m'a intéressé, même si je savais que c'était rien de comparable avec tout ce que j'ai connu les années précédentes. C'est quelque chose qui m'a intéressé et puis bah voilà, c'était une nouvelle perspective pour moi de continuer et voilà, j'avais vraiment envie.
Alors Amiens, c'est vrai que c'est un club, on va dire, jeune hein, dans l'élite. Est-ce qu'il faut réapprendre des choses que vous ne faisiez plus dans les clubs où vous êtes passé?
Oui, mais oui. Mais je ne les avais pas oubliés, donc ce n'est pas grave. Je ne me suis pas dit, ça y est, maintenant c'est comme ça pour toute ma vie. Je sais d'où je viens.
T'as plus ton porteur de chaussures, par exemple.
J'en ai jamais eu, mais si, c'est vrai que, par exemple, voilà, un détail, que ça soit dans tous les clubs que j'ai fait avant d'arriver à Amiens, mis à part Lorient, mais on a des malles pour mettre nos chaussures, les intendants prennent toutes nos affaires pour les matchs, pour partir au match. Là, à Amiens, on prend tout, nous. On prend nos chaussures, on prend nos slips, on prend notre serviette. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu prends pas ta serviette...
T'en auras pas.
Tu n'en as pas, alors qu'à Paris...
Dans les grands clubs, tu prends tes chaussures, point barre.
Même pas.
Tu les mets dans... C'est juste la musique.
Tu les poses devant ta place, et puis quelqu'un les met dans la malle, et voilà. Alors qu'à Paris, si t'as pas de serviette, par exemple, l'intendant.
Et ça, c'est dur ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout.
Bah non, c'est pas du tout.
Au contraire, ça fait du bien peut-être.
Bah en fait, oui. Enfin, moi, dans ma perspective de continuer le foot, c'était aussi pour revenir à
plus de simplicité.
Plus de simplicité. Des choses que j'avais connues. En gros, quelque part, boucler la boucle, quoi. Je suis parti de là et je vais finir avec un club à taille humaine, avec un esprit familial. Voilà, c'était aussi une manière de me dire, voilà, je continue pour ces raisons-là aussi et ça me pose aucun problème. Évidemment qu'il y a des choses à améliorer si Amiens veut progresser, veut attirer d'autres joueurs, veut, voilà, évoluer. Il y a des trucs à améliorer, mais je le savais dès le début, donc il n'y a pas de souci.
Est-ce que cette mobilité qui dicte votre vie professionnelle depuis 18 ans a fait de vous quelqu'un de flexible? Est-ce que c'est un atout, à votre avis, dans votre deuxième vie qui commencera quand vous arrêterez votre carrière?
Bah oui, je pense que c'est clairement un atout de pouvoir, sorte de caméléon, de pouvoir, on va dire, se réadapter facilement à un nouvel environnement. Mais ça te permet d'avoir un esprit largement plus ouvert sur les possibilités qui se présenteront à nous après la carrière, même si j'ai ouï dire qu'après la carrière, c'est toujours très difficile et que voilà, la compétition manque, mais ça permet d'avoir une ouverture d'esprit et de ne pas se fixer de cadre, on va dire. C'est vrai qu'on a eu l'habitude dans le foot d'être amené à bouger du jour au lendemain, d'une saison sur l'autre, d'un jour à l'autre. Donc c'est sûr que c'est quelque chose qui ne peut pas te faire peur par la suite.
Quand vous arrêterez votre carrière, vous nous avez dit tout à l'heure que vous pourriez vous poser n'importe où. Mais a priori, vous allez vous poser où? Vous avez une idée, non?
Une très bonne question. Ça dépendra de ce que je fais après. Ça sera toujours... Le travail dicte toujours un petit peu là où on veut habiter. Donc,
si tu restes dans le foot, il faudra déménager encore.
Exactement.
Il faudra être prêt.
Ou pas, je peux encore faire une année à Amiens. Et voilà. Mais c'est vrai que si je reste dans le milieu du foot, il va falloir redéménager, ça c'est clair. Mais après, de toute façon, je ne me vois pas aujourd'hui me dire je vais m'installer ici parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, il y a plein de joueurs qui se disent moi, à la fin de ma carrière, c'est sûr, je vais vivre là-bas, je fais construire ma maison. Et au final, ils la revendent parce que finalement, ils ont trouvé un autre projet et finalement, ils n'y iront jamais. Donc, moi, j'ai fait le pari d'attendre Voilà, je me dis, je n'ai pas voulu me fixer. Donc, on verra bien.
Bah, dis-le, t'attends que Canal Plus t'appelle pour être consultant. Comme tous les jours de football, mais c'est normal.
Tout à fait, c'était exactement ça.
On a un peu mieux compris comment ça se passait, effectivement, tous ces déménagements, toutes ces intégrations. Après, il y a l'intégration dans le jeu, les tactiques, tout bien ça, sûr. On aurait pu en parler, mais on était plutôt sur la vie de tous les jours avec vous, Christophe Jallet. Pour terminer, Sébastien Thoen a quelques questions à vous poser. Je vous préviens, aïe. C'est à une touche de balle. Aïe. C'est exactement. Assez rapide. Et
bon, c'est un quiz préférentiel, c'est une succès de 1-2, effectivement, une thématique, il y a deux possibilités, il y a un choix, donc je vais te dire, tu vas savoir. Jingle ?
Il y en a pas, mais...
C'est un peu quand on arrive en ville, jingle. Christophe, whisky ou cognac ?
Cognac. J'ai pas besoin de développer. Hein.
On rappelle qu'il est de cognac. Hein.
C'est pour ça, tu peux développer, ça m'intéresse.
Ah, ça t'intéresse, ouais. Ok.
Parce que je sais que t'étais à Lyon notamment pour le vin, mais ça c'est un autre sujet.
Ouais.
Mais le cognac aussi, au-delà de la ville.
Le cognac, c'est chez moi quand même, c'est ma terre. Et c'est un produit tellement noble, respectueux, qu'on n'apprécie pas forcément en France, que je suis obligé de le mettre en avant parce que c'est le travail d'une vie, une bouteille de cognac. Et quand on sait vraiment tout ce qu'il faut faire pour arriver au produit fini, on l'apprécie d'autant plus. Et malheureusement... Ben, en France, on n'est pas toujours d'accord pour aimer nos propres produits, et c'est bien dommage.
On a mis une caisse dans ta loge.
Très bien, merci.
Il paraît que ça se met dans le biberon, non ?
Ben, oui, non, quand,
pour les gens qui vivent là-bas. Oui.
Non, mais c'est pour de vrai. C'est, non, non, mais je
le
rigole
seul
pas.
Problème, quand, c'est que ça fait tomber les cheveux.
Non, mais quand les enfants sortent les dents, des fois, ont des grosses douleurs. On trempait un sucre dans le cognac et on mettait sur les dents pour... effectivement.
Vas-y, resserre-nous, Philippe.
Recette de grand-mère.
Vas-y, resserre-nous.
Le secret.
Recette de grand-mère.
Christophe, milieu ou défenseur ? Pourquoi ? Parce qu'il a joué aussi milieu, n'est-ce pas ?
Oui,
donc, qu'est-ce que tu préfères ou c'est quoi dans ton histoire ? Qu'est-ce qui a le plus compté ?
Ben, disons qu'à la base, je ne me voyais pas jouer autre chose que milieu. Et puis un jour, on m'a dit « tu serais peut-être bon arrière-droit ». Je n'ai pas voulu y croire. Et puis 3 ans plus tard, on m'a mis à ce poste-là en Ligue 1. Et je me suis dit « tiens, si je veux faire une grande carrière, j'ai peut-être plus de possibilités d'y arriver à ce poste-là ».
Niort ou Christian Dior ? C'est avant tout un jeu de mots, mais en plus, c'est très bien fringué. Mais...
Ouais, Niort, hein, c'est la base.
Absolument. Olas ou Le Prou ? Deux présidents que tu as eus, un qui est réputé pour la fête, je dirais pas lequel, mais dis-nous.
Ben.
Mais c'est une vertu, attends, de faire la fête.
Duquel tu parles ?
Mais je ne sais pas, on va parler de grandes fêtes du côté de. Bref.
Ouais, ok, d'accord. Non, c'est deux présidents que j'ai vraiment beaucoup appréciés. Un qui est toujours en poste et qui a fait de très, très grandes choses pour l'Olympique Lyonnais. Très grand président pour son club. Robin Le Prou a fait aussi avancer le PSG parce qu'il a pris des décisions pas toujours faciles. Et malheureusement pour lui, il en a un peu payé les conséquences vis-à-vis des supporters. Ça a été assez compliqué. Il l'a fait dans l'intérêt du club et surtout parce qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Et malheureusement, il a vécu des moments pas faciles. Donc voilà, je tiens à lui tirer un coup de chapeau aussi.
Bouchon lyonnais ou pain bagnat niçois ?
Bouchon lyonnais.
Tu m'étonnes.
Ouais, pas photo.
L'abbé de Lorient ou l'abbé de Somme ?
L'abbé de Lorient.
Ah bon ?
Ouais.
T'aimes pas l'abbé de Somme ?
Oui. C'est pas que je l'aime pas, mais l'abbé de Lorient, il y a un microclimat, tu sais pas, vers Quiberon, Carnac, tout ça, c'est magnifique, bien sûr.
Promenade des Anglais ou tunnel de Fourvière ? C'est hyper dur.
Non,
attends, c'est simple, hein, le 15 août, les deux sont blindés. Hein,
c'est
l'enfer,
clair.
Donc,
non, promenade des Anglais.
Et enfin, Paris by night ou Amiens by night ? Et pourtant, on rigole à Amiens.
Je crois que de toute façon. Les gens d'Amiens sortent à Paris, donc quoi qu'il arrive, c'est Paris by night.
D'accord. Il y a un très bon sauna là-bas, mais on en parle une autre fois. Merci Christophe.
J'allais vous le dire, le podcast du Canal Football Club à retrouver sur MyCanal, sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup, Christophe Jallet.
Avec plaisir.
Bravo.
Merci à tous. On vous donne rendez-vous très bientôt en podcast sur Canal+. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts et à retrouver tous les épisodes sur MyCanal et sur les plateformes d'écoute en ligne. À très bientôt. Donc.